Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a plaidé pour que les crédits carbone bénéficient aux populations congolaises. C'était hier vendredi au sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu à Paris, en France, les 22 et les 23 juin. Un homme de 68 ans a été arrêté hier vendredi à Boma, au Congo central, par la police avec 19 filles qu'il avait séquestrées chez lui pendant plusieurs mois. Le commandant du commissariat urbain de la police de Boma dit que toutes ces filles ont subi un contrôle médical pour savoir si les présumés coupables abusaient d'elles. L'invité de ce journal est le gouverneur intérimaire de la province du Maniema. Afani Idrissa Mangala s'exprime sur les mesures prises par le gouvernement provincial pour améliorer le climat des affaires dans cette province. Merci d'être avec nous, Polydor Basunga, sur la technique. Et devant le micro, Jean-Désiré Kanyama. Il est 12h passées de 1 minute à Kinshasa, 13h passées de 1 minute à Kindu dans le Maniema. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a plaidé pour que le crédit carbone bénéficie aux populations congolaises. Il l'a dit hier vendredi au sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu à Paris en France les 22 et 23 juin. Au cours de la conférence qu'il a tenue à l'issue de ce sommet, le chef du gouvernement s'est montré satisfait d'avoir porté haut la voix de la RDC à ses assises de grande portée économique et financière mondiale. Face à la presse, le Premier ministre Samalou-Kondé a tout d'abord vanté la position du pays, solution qu'occupe la RDC en ce qui concerne les questions liées à la lutte contre les changements climatiques. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Le chef du gouvernement a passé aussi en revue les questions du crédit carbone. Nous disons que nous sommes pays solution à trois titres. Le premier, c'est d'abord de dire que nous avons 62% des forêts du bassin du Congo que nous partageons avec 16 autres pays, mais à l'intérieur de la seule RDC, nous avons 62%. À côté de cela, nous avons des tourbières, des mangroves qui permettent aussi de capter les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il nous parle de près de 3% des gaz à effet de serre qui sont émis, que nous pouvons nous capter, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé. Il est par ailleurs revenu sur les discussions au centre du débat, notamment d'importantes réformes proposées pour assouplir et rendre efficace le système financier mondial à travers les deux principales institutions financières internationales, en l'occurrence la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. À l'en croire, tous les participants sont tombés d'accord sur la nécessité de réformer ces deux institutions financières mises sur pied il y a 80 ans à Bretton Woods, sans les pays africains, mais aussi sur la nécessité de prendre en compte la souveraineté de ces derniers dans le choix des projets et des secteurs où il faut orienter les financements.
Clôture hier vendredi à Mbandaka de la deuxième édition du Forum d'échange sur le développement du Grand Équateur. L'événement a eu lieu dans la grande salle du gouvernorat de la province de l'Équateur. C'est à l'initiative de la promotrice du groupe Média Équateur Magazine, en collaboration avec l'Union nationale des jeunes acteurs pour le changement du Congo, UNAGEC. Au cœur de ces échanges était également l'impact de la forêt équatoriale sur la vie des populations de l'espace Grand Équateur. Le point avec Paul-Richard Malengela.
C'est le deuxième forum du genre, après celui organisé d'abord à Kinshasa, a indiqué son initiatrice Ornella Mombela du groupe de médias Équateur Magazine. Cette deuxième édition a connu la participation des acteurs étatiques et non étatiques de la province, dont les femmes et les jeunes. Ensemble, ils ont dû mener des échanges sur la forêt équatorienne. Cet or vert qui contraste cependant avec la misère de la population, a indiqué Ornella Mumbela.
La forêt équatoriale, une richesse de l'espace Grand Équateur, et la province de l'Équateur continue toujours de démarrer dans le sous-développement. Il fallait échanger pour chercher des mécanismes qui peuvent booster le développement ou changer les choses dans l'espace Grand Équateur.
Toutes les retombées ou recommandations du forum de Mbandaka seront consignées dans une banque de données, laquelle servira à planifier des projets de développement régional édictée par la base elle-même, Ornella Mumbela.
Les données, nous allons publier sur notre site internet Équateur Magazine. Aussi, nous avons un magazine papier d'Équateur Magazine. Aussi, nous allons donner ça aux décideurs. Peut-être ils auront besoin d'organiser les actions par rapport à l'accès aux services sociaux des bases.
Toutefois, les moyens sont limités pour atteindre aussi les milieux reculés, d'où cet appel de l'organisatrice.
C'est juste un message de compassion, s'ils peuvent nous soutenir, nous appuyer pour donner la parole aussi, je peux dire, aux jeunes ruraux.
Mbandaka, prochain Malengue, la radio Okapi.
Notons qu'enfin, après Mbandaka, Boende, chef-lieu de la province de la Tuapa, accueillera la troisième édition du forum d'échange sur le développement du Grand Équateur. Dans la ville de Boma, au Congo central, je le disais au sommaire, un homme de 68 ans a été arrêté hier vendredi par la police avec 19 fillettes et filles qu'il avait séquestrées chez lui pendant plusieurs mois. D'après le commandant du commissariat urbain de la police de Boma, le commissaire supérieur principal Jean-Paul Ngolodo, toutes ces fillettes ont subi un contrôle médical pour savoir si le présumé coupable n'abusait pas d'elles. Ce dernier indique que les résultats médicaux restent encore secrets en attendant la poursuite de l'instruction. Plus de détails avec vous, Nana Plurich Mambou.
C'est dans sa résidence, sise sur l'avenue qui sont dans la commune de Kalamu, que le présumé coupable de séquestration a enfermé durant près de 9 mois ses 19 filles, a indiqué le commissaire urbain de la police de Boma. La même source affirme que ses enfants n'étaient pas scolarisés. Cependant, plusieurs sources concordantes affirment que ces enfants, dont 9 âgés de 7 à 10 ans et 10 âgés de 14 à 16 ans, ont été toutes les vierges pendant leur séquestration. Certaines parmi ces enfants habitent notamment la ville de Boma et d'autres de Kinzamvouété. La police a déniché la résidence du présumé coupable pendant qu'elle enquêtait sur la disparition d'une fillette dont les parents avaient porté plainte. Le présumé coupable de séquestration a été conduit à la prison de Boma hier vendredi et les enfants sont jusqu'à présent entre les mains de la police. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
En Ituri, 124 enfants orphelins gardés à l'orphelinat Saint-Kizito, des sœurs de la charité maternelle au quartier Mouzipela de Bounia, vivent dans des conditions difficiles. Ces enfants, dont le plus petit n'a que 3 jours, manquent de lait, de médicaments ainsi que la nourriture, précisent les gestionnaires de cette structure. Ce constat a été fait en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain. Des détails avec Ezekiel Mouzalia.
À l'orphelinat Saint-Kizito de Bounia, nous trouvons dans le premier pavillon des tout petits enfants, au moins une trentaine, blottis dans les mains de leurs servantes. Le cadet a 3 jours depuis sa naissance. Sa mère venait de rendre l'âme après l'accouchement. La sœur Agnès Oussida, une des gestionnaires de cet orphelinat, dit que le stock de nourriture et des médicaments sont presque épuisés et cela affecte leur santé.
Les coûts des médicaments, ça coûte très cher. Et aussi des vivres, ça coûte très cher. Il y a des gens de bonne volonté qui s'impointent pour venir les aider.
Dans le deuxième pavillon, par contre, où sont mélangés les enfants qui ont déjà atteint 3 ans et plus, nous retrouvons Brigitte Fouraha, elle-même orpheline, ayant grandi à l'orphelinat, qui s'occupe de ses enfants, comme les sœurs avaient également pris soin d'elle. Elle témoigne. J'ai grandi aussi comme ses enfants. Je suis resté ici pour les aider. Nous avons beaucoup plus besoin de lait. Ceux qui prennent le nid d'eau sont nombreux. Vraiment, si nous manquons le lait, c'est un échec pour nous. Cette structure compte une école primaire où sont inscrits une trentaine d'enfants qui ont déjà atteint l'âge scolaire. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis la force syndicale nationale Fosinat, syndicat des enseignants du Nord Kivu, dit constater avec regret la pratique de vente de bulletins par certains gestionnaires des écoles primaires publiques. Cela, dit ce syndicat, en complicité avec quelques autorités de l'EPST en province. Innocent Chamavou déplore cette situation qui ternit, selon lui, les efforts du chef de l'État dans l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement de base. Il appelle le ministre de l'EPST à s'impliquer personnellement. On écoute Innocent Chamavou au micro de Denise Lukesso.
Nous regrettons que le gouvernement congolais ait envoyé les bulletins dans nos provinces. Mais fort malheureusement, dans la distribution, il y a déjà des magouilles. Il y a des gestionnaires en complicité avec certaines autorités de l'EPST qui ont quintuplé même leurs effectifs. Et ce sont ces gens-là qui prennent tous les bulletins qui devraient être alloués à l'école primaire. Ces derniers revendent ces bulletins aux écoles privées. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où les écoles primaires publiques, là où il y a la gratuité de l'enseignement, ces gens n'ont pas de bulletins. Ce sont des associations, des écoles privées, des grandes gestions qui prennent tous les lots de bulletins. Ces bulletins sont revendus aux écoles privées. C'est pour cette raison que nous appelons à l'excellence Tony Mwaba Kazadi de s'impliquer personnellement dans cette situation qui est en train de vouloir tenir les efforts du chef de l'État dans l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement.
Nous ne sommes pas parvenus, malgré nos efforts, à obtenir la réaction des autorités provinciales de l'EPST sur cette question. Restons dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci dans la province du Maniema. Le 1er juillet, selon le calendrier scolaire, c'est la proclamation des résultats pour tous les élèves, sauf les finalistes du secondaire. Au Maniema, les directeurs de la province éducationnelle Maniema 1 mettent en garde tous les chefs d'établissement et gestionnaires d'école qui se donneraient le luxe de donner seuls les billets de vacances sans être accompagnés par le bulletin. Mokito Gaounda Serafin fait savoir que le gouvernement central a mis à la disposition de sa province éducationnelle tous les bulletins, même ceux de la gratuité. Il le dit au micro de Florence Kizalunga.
Non, les instructions sont claires. Nous avions dit aux chefs d'établissement et aux gestionnaires que le 1er juillet, lors de la clôture de l'année, aucune école, aucun chef d'établissement ne peut remettre le billet de vacances sans être accompagné par les bulletins. Donc, le gouvernement central a mis à notre disposition le lot de bulletins que chaque école doit remettre à chaque élève pour que le parent aussi prenne connaissance de l'évolution de leurs enfants au niveau des écoles. Mais les bulletins sont disponibles chez nous, et surtout pour la gratuité. Ces bulletins, nous remettons aussi gratuitement. Et nous avions instruit à tous les sous-préfets de remettre à tous les chefs d'établissement gratuitement au niveau de l'école primaire. Mais au niveau du secondaire, les bulletins, son excellence avait fixé les prix du bulletin au début de l'année, c'est 1000 francs. Tous les chefs d'établissement doivent venir acheter pour remettre aux parents. Je pense que tous les parents ont déjà payé cet argent. J'insiste, le 1er juillet, aucun enfant n'est peut rentrer à la maison sans présenter les bulletins à ses parents.
Le colloque tenu à Bukavu pour analyser la problématique des inondations à Calais a débouché sur un certain nombre de recommandations, notamment le reboisement de la chaîne de Mont Mitumba qui surplombe le littoral du territoire de Calais. Ce colloque a regroupé les chercheurs, les autorités politico-administratives ainsi que les organisations de la société civile. Le secrétaire exécutif de la chefferie de Bukavu était aussi de la partie. Claude Magadjou nous fait le résumé de ce colloque dans ce propos recueilli par Jean Kassami.
Ce que nous pouvons résumer par rapport à l'activité, c'est que les problèmes de Calais, et ça c'est dans tout Calais littoral, c'est que nous avons un problème des inondations des rivières dû à plusieurs causes, notamment la déforestation, dû à la recherche du charbon du bois et bois de chauffage, les problèmes de déboisement causé par les réfugiés rwandais que nous avons accueillis en 1994, l'indisponibilité aussi des terres arables, aussi le niveau de développement de la dynamique de l'occupation du sol. En 1982, vous imaginez, on était à 1,3%. Aujourd'hui, en 2022, les études ont prouvé qu'on était déjà à 84% d'occupation du sol, ce qui montre que l'homme a détruit de manière exagérée l'environnement, et voilà aujourd'hui nous avons les conséquences. Et nous avons pensé qu'il faut des mesures biologiques préboisées vers l'agroécologie, l'agroforesterie. Il faut planter beaucoup d'arbres pour reconstituer encore la nature.
Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a démissionné de ses fonctions hier vendredi. Jean-Claude Mvuemba affirme que suite notamment à des pressions faites sur lui par les élus provinciaux, il a préféré plutôt sauver son honneur et sortir par la grande porte de l'histoire que de subir des pressions politiques. Il a aussi déclaré avoir servi la province du Congo central avec dévouement et abnégation à la tête de l'organe délibérant. On écoute Jean-Claude Mvuemba.
Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Mvuemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire de peu durable, c'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbang anime toutes nos actions.
Et pour rappel, Jean-Claude Mvuemba, président de l'Assemblée provinciale, était visé par une motion de déchéance signée par 30 députés provinciaux du Congo central. Il justifie sa déchéance pour avoir autorisé son bureau d'initier un contrôle des finances de l'exécutif provincial.
Actualité internationale.
Élection générale en Sierra Leone, un jour de vote marqué par la crainte des violences. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur nouveau président, parlement et conseils municipaux. Le président sortant Julius Maada Bio brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Mais le match va se jouer entre lui et son principal adversaire, Samora Camara, l'homme qu'il a battu de justesse il y a 5 ans.
L'invité.
L'invité de ce journal est le gouverneur intérimaire de la province du Maniema. Afani Idrissa Mangala s'exprime sur les mesures prises par le gouvernement provincial pour améliorer le climat des affaires dans cette province. Afani Idrissa Mangala s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous vous rendez compte des conditions de travail des opérateurs économiques de votre province ?
Effectivement, la situation que traversent les opérateurs économiques de la province du Maniema, je suis au courant de tout, mais néanmoins le gouvernement est en train de fournir des efforts. Comment arriver à décanter cette situation? Comme vous le savez, les opérateurs économiques de la province du Maniema ont 4 voies principales de ravitaillement de leurs marchandises. D'abord, à ce qui concerne les transports terrestres, vous avez la route qui mène vers Bukavu. Vous avez la route qui mène vers Kisangani. Toutes les 2 routes là sont coupées. Et il y a la voie ferrée et vous avez la voie aérienne, ravitaillement par avion, qui coûte extrêmement cher, dont les effets d'entraînement sur le marché, c'est la hausse des prix. Donc, ce n'est pas seulement l'état des routes qui pose problème dans la province du Maniema, c'est dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et que le gouvernement central s'y investit pour arriver à décanter cette situation.
Vous venez de le dire, cette situation est à la base de la hausse de tous les produits sur les marchés. Qu'est-ce que votre gouvernement fait concrètement pour résoudre ces problèmes?
Le gouvernement fournit des efforts. Cette année, le gouvernement avait donné des moyens via FONER qui avait financé l'office des routes. Mais malheureusement, il se pose un grand problème, c'est le problème des matériels. Le matériel de l'office des routes, c'est au moins vétuste, qui date depuis 2012. Et que le gouvernement central avait commandé les matériels, nous entendons leur déploiement pour que les travaux de l'entretien de nos routes soient efficaces et plus rapides. Mais au moins, l'office de route essaye un peu de travailler là-dessus. La route vers Kasongo est à 40 km de Kindu. La route qui mène vers Kalima est à au moins 90 km vers Kalima. Donc, il nous reste 10 km. Mais la route qui mène Kisangani, c'est un projet qui existe, qui doit être financé par PADRIR. Jusque-là, nous entendons la concrétisation de ces marchés-là.
Mais la population remet en cause les travaux de l'office de route, car selon elle, il n'y a pas de résultats palpables.
Non, les résultats, et comme vous le savez, ce n'est pas la faute de l'office de route et moins encore du gouvernement central et provincial. Nous faisons notre travail, c'est le suivi et le contrôle. La gestion des fonds, c'est au niveau de l'office de route. Mais lorsqu'on appelle le directeur de l'office de route, il nous dit qu'il a un déficit criant de matériel. Et lorsque j'ai échangé avec le directeur général de l'office de route, il m'avait dit ceci. Le problème de matériel, ce n'est pas seulement le Maniema, c'est dans l'ensemble de toutes les directions de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas la question de mauvaise foi, mais c'est seulement le matériel qui sont un peu vétistes, qui ne nous facilite pas la tâche pour terminer les trajets déjà tracés pour leur entretien.
Monsieur le gouverneur, quelle est la suite de tous les projets et contrats que vous avez signés avec différentes sociétés pour le développement du Maniema?
Je pense nous avons été un peu modèles. Parce qu'à l'époque, les gens criaient « Non, lorsque vous voulez investir, on vous pose des problèmes, tracasseries financières, administratives. » Nous, on signe des contrats sans aucun frais. Mais malheureusement, c'est ce que moi je suis en train de regretter. Quand un investisseur vous tacle, « Oh non, j'ai autant de projets, je dois faire ceci. » Nous, on les facilite la tâche, mais c'est à eux de venir investir. Les contrats, nous les signons. Les protocoles d'accord, nous les signons. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? On vient de découvrir qu'il y a certains investisseurs qui venaient pour piéger le gouvernement.
Maintenant que la population continue à traverser des moments très difficiles de leur vie, est-ce qu'elle peut toujours continuer à espérer au gouvernement provincial?
Non. La population ne traverse pas un moment très difficile. Le problème de l'enclavement, ce n'est pas seulement dans le gouvernement. Nous les avons hérités. Mais au moins, nous avons déjà des projets sûrs que les
gouvernement central a déjà signé.
Conscient des conditions difficiles de travail des opérateurs économiques, avez-vous pensé à l'allègement fiscal, là je parle des taxes?
Oui, l'allègement fiscal et des taxes, je les avais opérés parce que dès lors que j'ai constaté que les opérateurs économiques de la province du Maniema traversaient des moments très difficiles, j'avais supprimé la taxe sur le péage route, j'avais supprimé toutes les autres taxes y afférentes par rapport au transport des biens et des personnes dans toutes les routes de la province du Maniema. Pendant 5 mois, c'est maintenant là au mois de juin que je viens de réhabiliter la perception des taxes dans la province du Maniema.
Monsieur le gouverneur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le gouverneur intérimaire de la province du Maniema était notre invité. Afani Idrissa Mangala s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal qui a été coordonné et supervisé par Alain Irung. Polydor Basunga a assuré la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.